autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à la réalisation, pour ouvrir toutes grandes nos oreilles à l'écoute du silence. Tiens donc, le silence à la radio, quelle drôle d'idée. Sauf quand celui qui nous incite à écouter ce que personne n'entend plus, le silence, ou plutôt les silences naturels, n'est autre que l'écho-acousticien Jérôme Sueur, notre invité, chercheur spécialisé dans l'écoute des sons du vivant et de la terre, pionnier de l'étude des paysages sonores naturels, qui vient de publier aux éditions Actes Sud une histoire naturelle du silence. Qu'est-ce donc que le silence ? Existe-t-il vraiment ? Pourquoi n'est-il ni vide, ni singulier, mais plein et pluriel, révélant en creux la formidable diversité sonore du vivant, bien plus riche et bien moins envahissante que l'incessant brouhaha de nos activités humaines ? Comment faire un peu moins de bruit pour laisser les autres vivants s'entendre jusque dans leur silence ? Nous voilà toutes oui autour de la question « Pourquoi écouter ce que personne n'écoute ?» Bienvenue pour partager nos silences intérieurs et extérieurs. C'est le mix inouï de Thibaut Baduel. Allez, il y a eu 3 secondes, hein, tout de même 3 secondes de silence à la radio, du bruit au silence, ça peut un peu faire peur. Hein. Surtout que nous, au bout de 30 secondes de silence, c'est l'alerte générale et on passe à la musique. Bon, là, on écoute Enjoy the Silence de Depeche Mode. Et on a osé le silence grâce ou à cause de vous, cher Jérôme Sueur, bonjour.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en direct avec nous en ce lundi de Pentecôte pour partager cette histoire naturelle du silence que vous venez de publier aux éditions Actes Sud. Alors comment l'écho-acousticien que vous êtes, spécialiste de l'écoute des sons du vivant et de la nature, enseignant-chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle, où vous êtes pionnier de l'étude et du suivi de la biodiversité par l'écoute et l'analyse des paysages sonores, comment donc le fou de son que vous êtes a-t-il décidé, comme vous le dites vous-même d'ailleurs, de vous mettre à l'écoute de ce que personne n'écoute, le silence ? Jérôme Sueur.
L'idée était un peu de se désaxer, de changer de position, ce qui finalement on doit chercher à faire en tant que chercheur, d'essayer de ne pas suivre forcément la route qui a été tracé devant, de se mettre un peu sur le bas-côté ou d'essayer de changer de chemin.
Et là, c'est un là, petit c'est peu... carrément le bas-côté hein, ouais. Pour un écho-acousticien.
Mais en fait, ouais, c'est ça, c'est qu'on passe notre temps à analyser, enregistrer les sons. Et puis, à un moment, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il y a entre ces sons et pourquoi on oublie ces pauses sonores, ces silences et à quoi servent-ils? Et puis, en fait, au début, je me suis dit que j'allais traiter ça très rapidement dans un petit article scientifique. Et puis, en fait, en déroulant le fil, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur les silences que l'on pouvait trouver dans les espaces naturels.
C'est ça. Vous parlez des silences au pluriel et vous dites bien que alors, le silence, ce n'est pas du tout l'absence de tout. Ce sont les silences, c'est à mettre au pluriel. C'est pas vide du tout, c'est plein, c'est habiter les silences naturels.
Oui, c'est pas du vide, c'est pas du creux. Pourquoi ? Parce que le silence porte potentiellement une information, notamment pour la communication sonore, mais aussi il peut révéler l'état d'un environnement naturel. Donc c'est pas du vide, c'est pas du rien. Alors on peut penser en effet le silence, c'est je me retrouve dans un espace calme, vide. Ça peut être ça, hein, le silence absolu, c'est ça. Mais c'est évidemment pas ce que l'on recherche, parce que le silence, dans ce cas-là, marque l'absence de vie, de mouvement. On est dans un état peut-être dépressif, voire de mort. Mais le silence, en fait, quand il est entouré de son, finalement,
c'est ça.
Il devient tangible, solide, et il sert à quelque chose, finalement.
Et vous nous l'aviez un peu montré, on s'était rencontrés pendant la période du confinement, où vous aviez notamment mis en avant, nous, tous les citadins, on disait, mais on entend enfin les oiseaux, etc. Et vous aviez démontré qu'au fond, ils ne chantaient pas plus fort que d'habitude, en fait, ni plus que d'habitude, on les entendait simplement mieux.
Oui, ils chantaient plutôt même moins et moins fort, parce qu'ils étaient moins perturbés, parce que nous, on était en pause, alors une pause contrainte, une pause difficile, bien sûr, mais on bougeait moins, tout simplement. Et donc, en bougeant moins, nous, on faisait moins de bruit, donc ils étaient moins gênés par nos agitations, et donc finalement, ils avaient moins besoin de chanter, moins fort, et moins besoin de répéter. Et donc, on se retrouvait dans ce que j'appelle une sorte de silence naturel, qui est en fait un silence qui est plein de sons du vivant, et où nous, on est, pour une fois, j'allais dire, un peu en retrait, et on laisse les autres s'exprimer un peu plus.
C'est ça, parce que ce qui ressort aussi de cette histoire naturelle du silence, on y viendra, c'est à quel point, au fond, le silence et les silences nous manquent et à quel point nous, on fait du bruit, pour le coup, mais vraiment du bruit. Nos activités humaines dérangent tous les autres, au fond.
Oui, et on aime ça. J'ai l'impression qu'on aime faire du bruit, mais on n'aime pas le bruit des autres. C'est toujours
c'est
la
ça,
même chose.
Bien
c'est
sûr.
Un problème de positionnement, de relativité. C'est-à-dire que, évidemment, j'aime pas le bruit que fait mon voisin, mais après, moi, je vais pouvoir faire du bruit et sans m'en rendre compte, parce que ça sera pas du bruit pour moi, parce que je serai actif, parce que voilà, ça me plaira à ce moment-là. Donc, mais d'une manière générale, les humains, pour les autres êtres vivants, font des sons qui sont dérangeants, qui les gênent, qui impactent leur santé, qui impactent leur reproduction et donc leur croissance de population. Et ça peut avoir des impacts sur tous les écosystèmes. Donc voilà, c'est une pollution. Les sons que l'on produit.
Hein,
alors, je ne parle pas de la voix,
nos activités, nos appareils, nos transports.
Surtout, bien sûr, nos transports, nos industries, notre agriculture, on fait beaucoup de bruit, les constructions, les destructions, voilà, on fait beaucoup de bruit à un niveau très intense, répété, qui s'arrête quasiment jamais, et tout ça, c'est fatigant, en fait, pour les corps des autres êtres vivants.
Alors, il va falloir qu'on définisse un petit peu tous ces mots. Donc, est-ce que vous avez une définition possible du silence? Alors, déjà, vous dites les silences, mais du silence naturel, c'est quoi pour vous?
Alors, pour moi, vraiment, le silence naturel, donc c'est une absence finalement de bruit humain. Alors c'est très misanthrope comme positionnement.
C'est ça quand même le silence naturel.
C'est comme ça que je l'ai dénommé. C'est quand on se retrouve dans une situation, que les autres êtres vivants se retrouvent dans une situation finalement de calme, de quiétude, où on peut communiquer sans être interrompu tout simplement, où on n'est pas fatigué, on n'est pas stressé par d'autres sons qui deviennent des bruits parce qu'ils impactent notre santé.
Et donc, c'est ça, parce qu'un son, c'est un bruit qui ne nous gêne pas.
Ouais.
Une émission sonore qui ne nous dérange pas. Et un bruit, ce serait un son qui nous dérange.
Un bruit, c'est un son qui nous dérange. Il peut impacter notre communication, nous empêcher de communiquer, de transférer de l'information d'une personne à l'autre. Et il peut simplement aussi perturber notre corps, notre physiologie. Quand on dort, même si on croit ne plus entendre, nos oreilles n'ont pas de paupières, ne se ferme pas complètement et on peut être gêné même pendant la nuit alors qu'on ne fait rien par le bruit.
C'est ça, physiologiquement, oui, nos oreilles ne peuvent pas se fermer.
Elles ne se ferment pas complètement, ce sont des systèmes d'alerte. Nos oreilles. Ce sont des systèmes d'alerte, donc elles sont un peu toujours à l'écoute pour savoir s'il n'y a pas un danger. Et la nuit, évidemment, puisqu'on ferme les yeux, on se réveille par un bruit, par un son. Ça peut être un son qui peut porter beaucoup d'informations. Ça va être, je ne sais pas, vous entendez une porte qui claque ou même quelque chose de bien plus subtil, et ça va vous mettre en alerte tout de suite. Et on pense notamment que évolutivement l'audition serait apparue justement pour cette fonction d'alerte, c'est-à-dire que ce sont des antennes qui écoutent le monde et qui nous donnent des informations sur le monde et notamment sur potentiellement un risque, un danger, l'arrivée d'un prédateur.
D'où l'importance d'avoir du silence, on y reviendra, pour arriver à entendre
ce qui peut être un signal d'alerte couvert par le bruit.
Et à propos de définition, vous citez celle que vous a donnée un enfant maternel que je trouve extraordinaire. Le silence est un son qui ne fait pas de bruit.
Il y a tout. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans, c'est-à-dire que c'est quelque chose, ce n'est pas rien, mais il ne fait pas de bruit, c'est-à-dire qu'il ne gêne pas, il ne perturbe pas, ce n'est pas une pollution.
Autour de la question pourquoi et comment se mettre à l'écoute du silence, de ce que personne n'écoute, nouvelle question pour vous, soulevée par l'écrivain, dramaturge et auteur entre art et science, David Valle, auteur entre autres de La vie profonde, une expédition dans les abysses, on l'écoute.
Je me demande si le silence existe. Le silence existe-t-il ? Et à partir du moment où il y a de la vie, y a-t-il encore de la place pour le silence ?
Votre réponse, Sir.
Donc le silence absolu n'en existe pas. Voilà, où il y a une absence totale de vibration, il y aura toujours... Du fait qu'on soit déjà présent et qu'on écoute, notre corps va, s'il y a un tout petit peu d'air, ça va produire des sons autour de nos oreilles. Donc le silence absolu n'existe pas. Et en effet, dès qu'il y a de la vie, il y a du mouvement et donc il y a des frottements, il y a potentiellement du son.
Oui, parce que le son, c'est une onde, on le sait bien, nous, à la radio, mais
c'est une onde mécanique. C'est une onde mécanique, c'est une perturbation en fait, d'un environnement, l'air, l'eau, ça peut être la table aussi, un solide, et on fait vibrer, varier en fait, la pression dans ces milieux, et nos tympans les reçoivent, et les tympans des autres êtres vivants les reçoivent aussi.
C'est ça, tout être vivant et sonore, tout le vivant perçoit les sons, il n'y a pas toujours des oreilles, il n'y a pas toujours une ouïe.
Non, tous les êtres vivants ne perçoivent pas les sons.
Mais émettent des sons.
Alors, dès qu'on bouge, finalement, dès qu'on bouge, et ça peut être à une échelle toute petite, pensez juste à une petite fourmi, tout simplement. Si vous mettez un micro à côté d'elle et qu'elle marche, vous allez pouvoir enregistrer son mouvement. Ça marche, en fait, finalement. Donc voilà, dès qu'on déplace quelque chose, on produit des sons.
Et vous parlez aussi, ce que je trouve très intéressant, de la dimension du temps dans le son. C'est là où interviennent aussi les silences, d'ailleurs. Ouais. Mais vous dites, c'est très joli, entendre, c'est écouter le temps qui passe.
Oui, parce qu'un son a un début et une fin. Le début est souvent très bien défini. Et la fin, quelquefois, est beaucoup plus difficile à définir parce que voilà, ça s'amenuise petit à petit. Pensez à une cloche. Il y a une résonance et ça se termine tout doucement. Et donc, ça marque le temps. Le son marque le temps, la cloche encore, marque le temps. Et donc, voilà, quand on est à l'écoute, on est aussi à l'écoute, en effet, du temps qui passe.
Est-ce qu'on peut, ça c'est une question à nos auditeurs à Kinshasa, Joey Caboto. Alors, est-ce qu'on peut mettre en évidence le silence, tout demande-t-il, puis le conserver ? Et autre question de Joey, tous les silences sont-ils les mêmes ou qu'est-ce qui les différencie ? Énorme question en fait.
Ouais, alors, mettre le silence en évidence, c'est très difficile parce que, encore une fois, qu'est-ce que le silence ? Mais si le silence est une absence de son, et on peut essayer de l'enregistrer, mais ça va être avec une certaine technique qui va enregistrer, avec une certaine sensibilité. Et en plus, il y a encore cette notion de temps, de durée du silence. Est-ce que 3 secondes, c'est beaucoup de silence ? Est-ce que c'est ça un vrai silence ? Est-ce que c'est une microseconde ou est-ce que c'est une minute ? Est-ce que c'est un quart d'heure ? Voilà. Et là, c'est très difficile de savoir quelle est la durée en fait, d'un silence. En musique, est-ce que c'est un soupir ? Voilà, c'est la même chose. Et la deuxième question, dont je ne me souviens plus.
La deuxième question, c'était est-ce que tous les silences sont les mêmes ?
Et non, ils portent des informations différentes. Ça dépend du contexte, ça dépend avec qui on échange des informations, avec qui on parle, qui on observe, où on est, etc. Donc non, les silences sont uniques, presque autant que les sons, finalement.
Et c'est ce que vous enregistrez, vous, quand vous allez, vous revenez d'Ouganda, je crois, Jérôme Sueur, où vous avez été écouter les
chimpanzés à Sébitoli, dans la station de recherche de Sabrina Krief.
Chercheuse au musée. Voilà, vous avez cherché à écouter quoi ? Les sons et les silences des chimpanzés ?
Oui, donc avec une étudiante, Lise Pernel, on essaye de savoir comment se comportent acoustiquement les chimpanzés quand ils sortent de leur territoire et notamment quand ils vont servir dans les champs à côté, notamment de maïs. Et l'idée, c'est qu'ils se font silencieux. Ils patrouillent silencieusement pour ne pas se faire repérer par les humains, par les fermiers qui sont là et qui surveillent leur champs. Et donc, c'est un comportement potentiellement extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils rentrent en silence pour aller chercher quelque chose. Et donc c'est quelque chose
pour pas se faire repérer.
Pour pas se faire repérer. Typiquement, c'est le comportement d'un prédateur, du chat. Typiquement, quand il chasse, il rentre en silence.
Bien sûr.
Et, voilà. Et la proie, normalement aussi, est à l'écoute de ce qui se passe.
Donc des sons d'alerte comme du silence absolu qui peut être affolant.
Oui, c'est ça. Donc le silence, justement, là, il peut être lourd de conséquences. Il peut porter une information très importante qui met en jeu la survie de l'individu. C'est-à-dire que le prédateur, s'il fait du bruit, il ne se nourrira pas. Et la proie, si elle fait du bruit, elle se fera attraper. Donc il faut que les deux rentrent dans une sorte de guerre du silence. Il faut être silencieux des deux côtés.
Guerre du silence. Autour de la question pourquoi écouter ou comment écouter cette guerre du silence, ce que personne n'écoute et qui pourtant se fait entendre à qui sait tendre l'oreille. Alors là, je vous propose la preuve tout de suite avec un son que vous nous aviez rapporté de Guyane, puisque vous étudiez sur place, de la réserve naturelle des Nourags, hein, c'est ça.
Ouais.
C'est le début de la nuit en Guyane et voilà ce que vous avez entendu et recueilli, Jérôme Sueur. Pas vraiment silencieux la nuit.
Non, c'est un beau
Guyane.
Silence naturel. Justement, Magnifique. C'est riche, c'est plein de sons. Donc, c'est le début de la nuit. En effet, il y a des amphibiens, il y a beaucoup d'insectes. Ils font vraiment le paysage sonore de la forêt tropicale et pas que en Guyane, toutes les forêts tropicales. Et puis là, il y avait un tout petit oiseau très discret qui est le tinamou qu'on a entendu un tout petit peu siffler. Et voilà, c'est très riche. Bon, c'est vrai que moi, je suis dans la forêt quand j'entends ça. Ça représente cette forêt. Les sons, les paysages sonores sont marqueurs d'un endroit. Je pense que si on se souvient d'un lieu, il faut peut-être aussi faire l'effort de se souvenir du paysage sonore. Qu'on ne fait pas souvent, finalement. Hein.
C'est vrai, on oublie. Alors que quand on entend ça, on se retrouve
tout de suite,
immédiatement
on est dedans.
Dans la forêt amazonienne. Oui. Vous parlez dans cet ouvrage génial, hein, l'histoire naturelle du silence. Vous parlez évidemment beaucoup des grenouilles. Racontez-nous comment les grenouilles se font entendre. Ah. Elles sont pas très silencieuses. Hein,
alors, elles sont pas très discrètes.
Bah, voilà, c'est
elles
ça.
Sont pas très discrètes. Et oui, il y a des petites polémiques, notamment pour des personnes qui habitent à côté de mares avec beaucoup de grenouilles. C'est vrai que ça fait beaucoup de sons. Donc, ce sont les mâles qui coassent et qui ont souvent des sacs vocaux qui amplifient le son, qui concentrent le son sur certaines fréquences. Et ils sont souvent pas tout seuls. Donc ils font ça en chœur, en groupe, et donc c'est vrai que ça fait une ambiance sonore qui peut être dérangeante, on peut comprendre, mais voilà, c'est essayer de laisser de l'espace aussi aux autres êtres vivants, et ils ont besoin de communiquer, s'ils ne font pas ça, ils ne se reproduisent pas et ils disparaissent tout simplement.
Et oui, c'est ça, on y viendra, c'est extrêmement important. Les sons émis, ça peut être la guerre entre prédateurs, c'est pour, ça peut être l'éco-location pour se repérer, c'est pour se rencontrer, s'aimer.
Ça sert à beaucoup de fonctions dans la vie quotidienne de ces animaux, en effet, pour se retrouver, donc pour se reproduire, pour nourrir les jeunes, pour la reconnaissance entre les membres d'une même famille, pour la cohésion sociale. Donc voilà, c'est la vie, hein. Encore une fois, c'est de la communication, c'est de l'interaction entre les individus. Et si vous coupez le son avec du bruit, ou dans le cas de la mare, si vous asséchez la mare, vous tuez tout, vous tuez toute la vie de ces animaux, en fait.
C'est ça. Et quand on dit si vous coupez le son, c'est aussi laisser les silences qui sont entre les sons.
Ouais.
Autour de la question comment se mettre à l'écoute de ce que personne n'écoute, le silence, on l'a bien compris, les silences naturels. Vous avez eu envie, Jérôme Sueur, d'écouter une jeune chanteuse qui commence à se faire sacrément entendre et pour cause. C'est Zao de Sagazan. Vous avez choisi la symphonie des éclairs. Vous nous direz pourquoi ensuite.
Au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer, franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs.
Zao de Sagazan, la symphonie des éclairs sur RFI. Pourquoi ce superbe choix musical, Jérôme Sueur ?
Tout simplement parce que déjà cette musique m'émeut, peut-être autant que, enfin même plus que quand j'écoute des sons de la forêt. Et puis il y a ce rapport entre la tempête intérieure, la tempête extérieure, écouter la symphonie des éclairs, c'est très poétique.
Magnifique.
Et ça correspond bien. Ouais.
Et crier tout bas, qu'est-ce que c'est joli ça, de crier tout bas. Et si on pouvait crier un peu plus tout bas, nous les humains, peut-être, autour de la question pourquoi et comment se mettre à l'écoute du silence, de ce que personne n'écoute. On continue de feuilleter votre histoire naturelle du silence, inédite, inouïe, franchement inouïe, Jérôme Sueur, en se mettant à l'écoute donc de tous les autres vivants que nous, qui font du son, qui communiquent, qui s'aiment, qui se chassent en son et en silence. L'un ne va pas sans l'autre. Pour se faire entendre, il faut du silence. Pour que le message passe, il faut pouvoir s'entendre, même sous l'eau. Comme nous l'expliquait Fabienne Delfour, elle est éthologue et cétologue, spécialiste des dauphins en particulier et des cétacés en général. Et elle a une question pour vous, Jérôme.
Bonjour Jérôme, donc Fabienne Delfour, j'ai adoré ton livre sur le silence et justement l'océan, ce monde du silence qui n'en est pas un. Mais j'aimerais savoir, d'après toi, quelle est la fonction du silence dans cette communication chez les cétacés.
Pouvez-vous répondre à Fabienne Delfour ?
Et merci à Fabienne, je vais lire son livre aussi en bien très
dans la peau d'un dauphin, magnifique, dans lequel on découvre à quel point les silences sont importants chez tous les cétacés ou chez les cachalots qui font des clics.
Chez quasiment tous les êtres vivants qui utilisent le son pour communiquer, il y a un rythme dans tous ces chants ou dans ces clics. Et si on enlève ce rythme, on perd ce qu'on appelle le code. Ce qui code l'information dans le chant qui veut dire « je suis une baleine, je suis un dauphin, je suis Marcel, je suis Albert », etc. qui signe notamment l'identité individuelle de ces dauphins ou des autres mammifères marins. Donc si on enlève ces silences, il n'y a plus rien. Ça paraît idiot, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas. Même nous, en tant que bioacousticien ou écoacousticien, on regarde encore une fois les sifflements et on oublie quelquefois ce qu'il y a entre. C'est comme en musique, c'est comme en parole. Si j'enlève les silences, ça va être plus difficile quand même. Donc, ils font partie du code, ils font partie de l'information.
C'est ça, au fond, son et silence vont ensemble. L'un n'irait pas sans l'autre.
Bien sûr, ouais. Bien sûr, c'est un diptyque. Et ils donnent le rythme, ils donnent le tempo. Et donc, ils sont extrêmement importants pour le codage, encore une fois, de l'information.
D'où l'importance pour nous humains de comprendre à quel point nos activités humaines sont assourdissantes pour les autres. C'est ce que vous constatez quand même en suivant. Il y a vraiment un souci de pollution sonore aujourd'hui.
Et exactement. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important à comprendre. C'est-à-dire que les sons que l'on produit sont une pollution. Alors, sont une pollution pour nous. On le sait, ça détruit notre santé. Ça affecte vraiment de manière très significative.
Oui, trop du bruit.
Alors, ça nous stresse. Ça impacte notre système cardiovasculaire, hormonal. Ça empêche la concentration, ça nous fatigue, enfin, la liste est longue, malheureusement. Et la liste est la même pour les autres êtres vivants, ce qui est connu pour notamment pour les mammifères marins, mais aussi pour les oiseaux. C'est la même chose, c'est le même impact sur la santé. Et on voit de plus en plus que ça peut avoir un impact sur tout un écosystème par des effets cascades, c'est-à-dire qu'on va impacter, par exemple, la vie d'un pollinisateur ou d'un oiseau qui dissémine les graines, et ça peut avoir ensuite des conséquences sur, par exemple, sur les végétaux, sur la pollinisation. Donc on revient aussi à cette idée de concept d'une seule santé, C'est ça.
One Health, ce serait aussi One Health sonore.
Exactement.
Attention,
parce que on commence maintenant à s'inquiéter de la pollution sonore, qui est en fait la deuxième forme de pollution la plus impactante pour la santé humaine, hein, après la pollution chimique. On commence à le dénoncer, mais c'est aussi vrai pour les autres êtres vivants. Et ça, pour l'instant, on ne s'en préoccupe pas beaucoup.
Plusieurs projets en ce moment d'ailleurs que vous menez, alors je crois qu'il y en a en Guyane, il y en a dans le Jura, il y en a pas mal d'endroits, où vous écoutez, vous suivez finalement, vous mettez des capteurs pour suivre un peu l'évolution de la biodiversité à travers le son. Donc le son et les silences qui vont avec,
c'est ça. Exactement, hein. sur le long terme. On a deux projets principaux, un dans le Haut-Jura, dans le parc naturel régional du Haut-Jura, et un autre dans cette réserve des Nourragues en Guyane, et puis on commence aussi un petit peu dans les Pyrénées. Et l'idée c'est de voir l'évolution du paysage sonore sur le long terme, de l'ordre de 10, 15, 20 ans, pour voir comment ce paysage sonore va changer, notamment en fonction du changement climatique, mais aussi en fonction de changements d'usage de ces forêts. Est-ce qu'on continue à rentrer dans ces forêts, dans le Haut-Jura, par exemple, à chasser, à couper les arbres, à faire du ski, en Guyane, à y travailler, etc. Donc comment ça va changer ? Parce que souvent on me demande, mais comment était le paysage sonore d'il y a 50 ans où... Les gens, c'est rien, parce que je n'ai pas les données.
Et
là, voilà, on essaye aussi d'archiver pour que plus tard, il y ait un témoignage de ces paysages sonores. Et on prévoit notamment un projet sur une centaine de sites de forêts en France pour avoir... Une image sonore bien plus précise des forêts françaises.
Et à l'écoute, vous vous entendez si ça va bien ou si ça va pas bien, ou c'est pas comme ça que ça se joue.
Alors on n'écoute pas parce qu'on enregistre trop, donc on n'écoute pas. Ah, et on n'a pas encore le message parce qu'on n'en est qu'à 4-5 ans d'écoute, d'enregistrement, donc on n'a pas encore assez de recul pour avoir une conclusion sur l'évolution de ces paysages sonores.
Vous allez revenir parce que ça nous passionne, nous, à la radio, et ça passionne de plus en plus aujourd'hui. On est, peut-être qu'on a été trop visuel, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on rouvre un peu nos oreilles aujourd'hui.
Alors, on est des animaux extrêmement visuels, c'est sûr, mais on est quand même assailli de sons toute la journée, auxquels on ne prête pas forcément attention. Ça devient un fond sonore. Mais si on commence à prêter attention, on peut s'amuser un peu à décomposer ces paysages sonores et à les écouter comme on regarde un paysage visuel.
C'est ça, et ça fait du bien de se mettre à l'écoute, parce qu'en même temps, le trop de son, trop de bruit fait beaucoup de mal, mais le silence absolu...
Ah mais c'est terrible, il ne faut surtout pas aller chercher ça.
Voilà.
Non.
Notre corps lui-même n'est pas silencieux du tout.
On entendait bien les gargouilles des ventres avant le repas. Donc ça, il n'y a pas...
Et les battements de notre cœur.
De notre cœur qui sont impressionnants. Là, au début du mix, ça me met en question sur notre propre vie, quoi, de sentir l'intérieur, c'est quand même très spécial. Et donc, écouter, si on écoute l'extérieur, et ça peut être dans une ville, c'est intéressant de décomposer, quoi. Qui fait quoi et quand ?
On s'oublie un peu dans ces cas. Allez, je vous propose de quitter la ville pour repartir sous l'eau, mais au plus profond. Là où les océanographes, comme Pierre-Marie Saradin de l'Ifremer, ont découvert des formes de vie totalement exubérantes et variées dans des sources hydrothermales, vraiment dans les abysses. Alors, je vous propose d'écouter Pierre-Marie Saradin, responsable des environnements profonds à l'Ifremer, car il a plus qu'une question, même une proposition à vous faire, Jérôme Sueur.
C'est vraiment une question qu'on se pose sur les paysages acoustiques de ces écosystèmes. Alors effectivement, les récifs tropicaux ont des signatures acoustiques particulières et on pense que les sources hydrothermales auront aussi une signature acoustique et que cette signature acoustique peut permettre justement de la communication dans cet écosystème. Il y a des sons qui passent. Le son est une onde qui passe très, très bien dans l'eau. Et effectivement, si Jérôme Le Sueur veut travailler avec nous, on est tout à fait prêt à travailler avec lui, justement. La bioacoustique, c'est une discipline avec beaucoup, beaucoup de demandes actuellement. Donc, les bioacousticiens sont très demandés.
Vous l'embarqueriez à bord du Pourquoi pas, Pierre-Marie Saradin ?
Oui.
Une invitation ?
Oui, c'est une invitation.
Êtes-vous prêt, Jérôme Sueur, à embarquer à bord du Pourquoi pas, le navire laboratoire de l'Ifremer pour aller... écouter, mesurer, enregistrer les abysses.
Il ne sera pas déçu, je serai tout vert et je serai bien malade. Mais oui,
mais vous iriez quand même.
Oui, je crois, bien sûr. Je ne connais vraiment pas bien l'acoustique des sous-marines. Mais il y a tout un monde à découvrir. Notamment, on s'aperçoit de plus en plus que les poissons font des sons. On parle des récifs coralliens, que les sons des récifs coralliens orientent les larves de poissons dans l'océan. C'est-à-dire qu'ils retrouvent leur lieu de naissance à l'écoute des sons qui proviennent des récifs coralliens. En effet, la bioacoustique, ce qu'il dit est tout à fait vrai, se développe beaucoup en sous-marin, parce que c'est un monde auquel on n'a pas accès. Avec la technique, bon, c'est pas nouveau non plus, hein, parce que historiquement, la bioacoustique a commencé en sous-marin, à l'écoute des océans, notamment des activités militaires. Mais on découvre encore énormément de choses, et il y a certainement des choses à faire dans les profondeurs marines où il n'y a plus du tout de lumière, où on peut supposer que le son peut jouer un rôle dans la communication. C'est tout à fait possible.
C'est ça. Et du coup, de manière assez pratique, comment vous faites, vous, éco-acousticien, dans les forêts où ce matin vous avez des micros particuliers, vous les installez, comment ça se passe?
On a des enregistreurs automatiques avec un ou deux micros que l'on programme, tout simplement. On leur dit quand est-ce qu'ils doivent enregistrer. Donc nous, typiquement, on enregistre une minute tous les quarts d'heure. Et vous pouvez faire la même chose avec des sondes acoustiques sous-marines et vous laissez des hydrophones, donc des microphones spécialisés pour aller sous l'eau. Et pareil, ils peuvent enregistrer quand vous leur dites d'enregistrer. Et comme ça, vous pouvez avoir une image sonore encore du fond sous-marin où vous n'allez pas.
Une minute tous les quarts d'heure, dans les fonds sous-marins, dans les forêts, en Europe en tout cas, mais ailleurs dans le monde, quand on met un micro en l'air, on entend souvent un avion passer. Comment vous faites?
On fait avec. C'est-à-dire, avec, mais ça fait brume, partie aussi de ce que l'on décrit, c'est-à-dire que l'importance de ces bruits humains, de cette pollution sonore potentielle que l'on retrouve énormément dans le Haut-Jura, elle est très très présente. C'est dans 75% de nos enregistrements. On a un avion, on a aussi des tronçonneuses, on a quelquefois des voitures au loin. Mais voilà, c'est très difficile d'enregistrer, en tout cas en France métropolitaine, un endroit où on parlait de durée de silence, où on a un silence, enfin, où il n'y a pas de bruit humain de plus d'une minute. C'est vraiment difficile. Ouais. Vous pouvez faire l'expérience, juste en écoutant, aller n'importe où, là où vous êtes, en vacances ou pas, au travail, et essayer d'écouter que des sons du vivant, ça va être très difficile.
Ouais. Plus d'une minute de silence, c'est compliqué. Ouais. Vous racontez d'ailleurs, c'est au début de l'histoire naturelle du silence, un de vos premiers émois de silence. Racontez-nous ça, parce que vous sortiez vous étiez à la montagne avec vos enfants petits. Enfin, on se doutait bien, tout le monde malade. Enfin, on se doutait bien qu'il y avait du
bruit à la maison. Un environnement sonore intérieur assez fort. Et j'ai pu m'échapper quelques minutes et me retrouver en hiver, donc dans un environnement quand même très calme où la neige absorbe quand même beaucoup les sons et les vibrations. Et ça, une forme de quiétude, tout d'un coup, on se retrouve déjà de se retrouver seul. C'est pas un mal, il faut accepter de vouloir se retrouver seul et d'écouter justement. Mais c'était pas vide. Il y avait la neige qui tombait, il y avait quelques mésanges qui passaient, un peu de vent. Si on prête attention, on entend.
J'ai envie de vous lire ce que dit un autre auditeur de Kinshasa. Tiens, donc on a eu aussi de magnifiques témoignages de Madagascar. Alors cet auditeur, il nous dit, comme on dit chez moi, reculer pour mieux sauter, soit réfléchir en silence avant d'agir. Ouais. La parole perd ce que le silence gagne. Joli.
La parole perd ce que le silence. Oui, c'est philosophique là. On rentre et c'est vrai que quand on commence à s'intéresser au silence, on peut dériver facilement vers des questions d'ordre philosophique, de silence intérieur,
spirituel aussi, bien sûr,
spirituel, de réflexion, etc.
Allez, retournons auprès des autres animaux. Cette fois-ci, pas sous l'eau, mais sur terre, autour de la question pourquoi les plus sonores et les plus silencieux ne sont pas toujours ce que l'on croit. Nouvelle question pour vous, Jérôme Sueur, soulevée par une de vos collègues au Muséum national d'histoire naturelle, Géraldine Véron, spécialiste des carnivores et des petits prédateurs, qui est aussi commissaire scientifique de l'exposition Félin, actuellement au Muséum.
Moi, je travaille sur les carnivores. Il y en a qui sont très, très sonores. Il y en a qui sont très silencieux. Ce n'est pas forcément ni les plus grands, ni les plus petits, ni les plus grands prédateurs ou autres qui sont ou silencieux ou pas. Ce n'est pas toujours lié non plus à leur mode de vie social. Et c'est parfois assez incompréhensible, en fait. Donc, pourquoi il y a des animaux silencieux? Pourquoi d'autres sont beaucoup plus bruyants, voire très bruyants parfois?
Avez-vous la réponse, monsieur?
Ah, c'est difficilement compréhensible, comme dit Géraldine. Alors, non, c'est difficile parce que bon, ça révèle en fait toute la diversité, pense, tout simplement, de nos comportements sonores. On a une diversité visuelle qui nous est assez facile à voir, hein, évidemment, de couleurs, de mouvements, mais il y a aussi toute une diversité sonore dans la communication, mais aussi dans les comportements de prédateurs. Maintenant, quand même, dans la prédation, quand un prédateur va chasser et que cette proie est capable d'audition, d'écoute, quand même dans la majeure partie des cas, ce prédateur est dans le silence, se fait silencieux. Ouais.
Ouais, qu'est-ce qui vous a... Parce qu'effectivement, c'est cette diversité, finalement, dans votre histoire naturelle du silence, on découvre l'incroyable diversité acoustique, sonore du vivant. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans ces... C'est des communications, et sonores et silencieuses, c'est des séductions, c'est dans quel domaine, ou c'est quel... Qu'est-ce qui vous surprend le plus, ou qui a le plus touché vos oreilles?
Mais en fait, c'est cette diversité, c'est l'inattendu. C'est-à-dire que quand on va à un endroit, même si on retourne au même endroit le lendemain, à la même heure, mais ça ne sera pas pareil. Donc il y a cette curiosité de savoir, mais que va-t-il se passer? Je vais observer quelque chose qui ne sera pas la même chose qu'hier, qui ne sera pas la même chose que demain. Et on a cette diversité sonore, cette diversité de comportement. Et c'est ça qui est superbe. Et c'est ça qui excite la curiosité du chercheur en éthologie ou en écologie. C'est la diversité.
Et d'ailleurs, on peut citer le terrible ouvrage de Rachel Carson dans les années 60 qui nous alertait déjà sur les changements climatiques, entre autres. Son livre s'appelait Silent Spring en anglais, Printemps silencieux.
C'était, en fait, son livre n'est pas sur l'acoustique, il est sur la pollution chimique qui conduit par des effets cascades, c'est vraiment de l'écologie, hein, d'espèce en espèce, à une perte de biodiversité des oiseaux et donc un ensilencement des forêts ou des champs ou des bosquets dans les champs. Donc le silence là est complètement révélateur d'un problème écologique qui est là, encore une fois, je suis désolé, mais dû à l'action humaine, aux pesticides, à l'épandage des pesticides dans les champs.
Autour de la question pourquoi on ne s'entend plus ou on s'entend moins, explication toute personnelle de la chanteuse Angèle. Son morceau s'appelle « J'entends » sur RFI.
Je n'entendrai plus le silence. Avant qu'il parte, j'en avais peur. Mais là, il est absent et ça, et c'est pour toujours. Toujours ce même sifflement. Et dans mes insomnies, j'en pleure. C'est comme un nouveau deuil à faire, celui du silence. Je rêve de pouvoir rêver. Je rêve de pouvoir rêver comme toi. L'œil se ferme pas l'oreille. Elle m'empêche de rêver. Aide-moi, sans bruit, je n'entends que mon oreille. Et le silence rend plus fort mes acouphènes. J'entends, je sens, je pars, je me dis. Encore lui, ce même bruit, j'en peux plus, il me tue. J'entends, c'est un cauchemar, je pense. Ce même bruit, j'en peux plus, il me tue. Encore lui, j'entends, mais si j'en bats, je flanche. Il me tue, c'est de famille apparemment. On préfère pas trop y penser. Et vaut mieux d'ailleurs éviter trop d'en parler. Car c'est en parlant souvent qu'on le laissera exister. Même si je sais que rien n'y fait, il existe tout le temps. Je rêve de pouvoir rêver. Je rêve de pouvoir rêver comme toi. L'œil se ferme pas l'oreille. Elle m'empêche de rêver. Aide-moi, sans bruit, je n'entends que mon oreille. Et le silence rend plus rare le sommeil. J'entends, je sens, je pars, je me dis. Encore lui, ce même bruit, j'en peux plus, il me tue. J'entends, c'est un cauchemar, je pense. Ce même bruit, j'en peux plus, il me tue. Encore lui, j'entends, mais si j'en bats, je flanche. J'en peux plus, il me tue.
Les Les acouphènes d'Angèle sur RFI, ça fait réagir l'éco-acousticien que vous êtes, Jérôme Sueur, auteur de l'histoire naturelle du silence. Ah,
c'est les sons, les bruits physiologiques intérieurs qui sont en effet pas très, très agréables. Moi, j'ai aussi des acouphènes, aussi. Peut-être moins violents que ceux d'Angèle, mais c'est vrai que c'est un peu casse-pied quand même. Et bon, avec des boucles souvent de rétroaction, plus on y pense, plus on les entend, c'est difficile.
Ça. Alors qu'on aurait tant besoin parfois d'un petit silence intérieur.
Voilà, mais oui, c'est une histoire de le silence extérieur et le silence intérieur.
Oui.
Souvent, pour aller chercher le silence extérieur, pour aller écouter notamment les sons des autres êtres vivants, il faut rentrer soi-même en silence. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas silencieux dans sa pensée, quoi. C'est un acte aussi d'introspection. C'est-à-dire que c'est ça aussi moi que j'aime dans l'écoute du vivant, c'est que je vais à l'écoute des autres. Mais c'est aussi des instants de silence intérieur, de calme, où voilà, les pensées se développent.
On arrête de ruminer complètement et on se met, on se met à l'écoute.
On peut ruminer quand même.
On peut ruminer quand même en attendant des heures le son qu'on veut. Autour de la question, comment se mettre à l'écoute de ce que personne n'écoute? Nous sommes donc en votre compagnie. Jérôme Sueur, autour de votre dernier essai inouï, je l'ai dit, l'histoire naturelle du silence, qui nous fait découvrir en creux la formidable biodiversité sonore du vivant. Pour qui sait l'entendre, car la vie se fait toujours entendre, la Terre aussi, hein, la Terre, notre planète. Alors, fut-elle un jour silencieuse? Demain, quel sera le futur du silence? Autant de questions plus essentielles qu'on ne le croit, ouvertes en écho aux vôtres, Jérôme Sueur, par le préhistorien Ludovic Slimak. On l'écoute.
Quand on est dans des immensités, il y a le silence qui n'est jamais là. Même quand vous mettez la tête sous l'eau, vous avez des bruits, vous avez des grincements, vous entendez les galets. Quand vous allez dans des forêts primaires, vous avez des présences. Et ce sont ces présences. Quand vous allez dans des grottes anciennes, il y a des odeurs et il y a des bruits, des petits clapotis, des petites pierres, des choses, on ne sait pas ce que c'est. Et le silence n'est jamais là. Et le silence, ce qu'on appelle le silence, qui serait l'absence de nos voix, en réalité, sont des présences extrêmement profondes et dans lesquelles on doit pouvoir écrire une histoire de ces silences-là qui nous parle des silences d'aujourd'hui, des silences des lieux et de ce qui se transmet et de ce vers quoi on va. Quels seront les silences des grandes forêts primaires quand il n'y aura plus de forêts primaires ? Sera-t-on capable de recréer, comme il est proposé par Francis Allais, des grandes forêts primaires en Europe occidentale? Et si on y arrive, quels en seront les bruits? C'est ces sentiments océaniques de plénitude quand on est face à quelque chose qui nous dépasse totalement et qui nous parle directement par les sens. Il n'y a pas besoin de la voix, ça passe par les pores de la peau, par la transpiration, par l'écoute. Et ce silence-là, effectivement, était une présence totale.
Vous êtes d'accord, Jérôme Sueur, avec le préhistorien et archéologue Ludovic Slimak, les vrais sons naturels, les vrais silences naturels, ça passe par tous les pores de la peau, finalement, ça se ressent partout.
Oui, c'est une vibration et c'est vrai que c'est essentiellement évidemment acoustique, mais vous pouvez le percevoir par le corps, en effet. Et souvent, quand on se retrouve avec des sons quelquefois inattendus, je parlais de la diversité, ça fait réagir, ça provoque des émotions qui peuvent être très fortes, bien sûr.
Vous consacrez aussi dans cet ouvrage, cette histoire naturelle du silence, un chapitre, non pas à la paléoacoustique, ça ne peut pas vraiment exister, mais au son du passé et au son du futur. Il faut les imaginer, ceux-là ou...
Alors, c'est assez difficile, et dans un sens comme dans l'autre. Donc, les sons du passé, on peut les déduire en retraçant l'évolution, notamment de la vie sur Terre. Et pour le futur, c'est difficile. Et... je ne crois pas avoir, j'ai pas vraiment cherché non plus, lu d'essais qui prévoient quel sera l'avenir acoustique, dans quel futur sonore serons-nous. On est aussi très souvent dans le visuel. Est-ce qu'on sera complètement envahi par nos propres sons ou au contraire, est-ce qu'on va réussir à se calmer, à avoir des machines qui font moins de bruit, on laissera plus de place. Les changements météorologiques changent aussi les paysages sonores. Hein. S'il y a plus de vent, tout simplement, vous changez de paysage sonore. S'il y a plus de pluie, donc tout ça, ça c'est dynamique, ça va changer, mais c'est assez difficile de prédire évidemment le futur.
Qu'est-ce que vous prévoyez, Jérôme Sûr, mais qu'est-ce que vous appelleriez de vos voeux? Parce qu'on se rend bien compte qu'avec votre travail d'éco-acousticien, de bio-acousticien, avec cette histoire naturelle du silence, vous nous mettez devant le fait qu'effectivement, nous les humains et nos activités, nos transports, nos machines font du bruit et ne permettent plus aux autres vivants de s'entendre. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, vers quoi on devrait aller? Déjà peut-être écouter
tout simplement écouter, être sensibilisé à ces autres sons, les découvrir, les connaître, les comprendre, et le fait d'aller vers ces sons, ça conduit inévitablement à avoir une posture tout simplement plus discrète.
C'est un peu plus humble,
c'est-à-dire que d'un point de vue sonore, on écrase tout simplement, vraiment, on est dominant, et c'est de reprendre une position un peu plus équilibrée pour que ça soit plus équilibré dans le paysage sonore. C'est évidemment pas de s'arrêter de vivre, on est là pour ça, pour vivre, pour s'agiter, mais en prêtant quand même attention, on peut quand même éviter des sons, des bruits, tout simplement. On n'est pas obligé d'avoir des moteurs qui font 100 décibels, ça sert strictement à rien. C'est juste pour faire croire qu'on est plus puissant, plus fort, mais non, ça sert à rien. Donc voilà, c'est essayer de réfléchir à ça, et puis voilà, d'être en effet à l'écoute des autres, finalement.
C'est toujours paradoxal, finalement, parce qu'on parle du silence, on parle du son. Finalement, on cherche le silence pour le rompre. On a des proverbes, mais c'est vrai. Enfin, vous le dites aussi. Enfin, on est tout le temps dans des paradoxes. Ouais. Le silence est d'or, la parole est d'argent. Et en même temps, le silence n'existe pas vraiment. On sait bien qu'on en a besoin du silence, mais on s'y est longtemps peut-être pas assez intéressé. Et au silence et au son, les deux sont les mêmes, vont ensemble, évidemment.
Oui, encore une fois, je pense parce qu'on est essentiellement visuel et que le son passe en second. C'est un sens qui de second ordre finalement, auquel on prête pas attention. Et à partir du moment où on ouvre les oreilles, on peut s'intéresser à cet environnement qui offre un autre horizon finalement, et on change peut-être un peu de comportement.
Vous voyez un peu le monde autrement avec vos oreilles de...
Moi, je l'écoute, en tout cas, je l'écoute autant que je le regarde, bien sûr. Évidemment, quand je fasse un paysage ou des chimpanzés, on ne peut que les regarder, ce n'est pas possible. Mais en même temps, j'essaye d'avoir une écoute. Voilà, ce n'est pas l'idée d'enlever un sens pour un autre, mais de remettre un peu, de rééquilibrer encore une fois les sens et de se dire que par l'audition, on a beaucoup de choses et que ce serait dommage de s'en priver.
C'est quoi votre paysage sonore préféré? C'est impossible à dire.
Mais il y a un son que j'ai beaucoup aimé. Là, il n'y a pas longtemps, j'étais en Camargue avec un ami, Marco Rebutini, et on a vu des vols de d'oies sauvages. Et c'était simplement le battement des ailes dans l'air. C'est un froissement. Ce n'est pas un son de communication, mais ça révèle le paysage, ça révèle l'air.
Merci infiniment, Jérôme Sûr, d'être venu partager un peu de cette histoire naturelle du silence. Ouvrage inouï, je l'ai dit, à lire absolument, paru aux éditions Actes Sud, comme votre précédent, qu'on peut toujours rappeler, Les Sons de la Terre. Nous, on est fans, donc on le rappelle. Je vous signale aussi, chers amis auditrices et auditeurs, si vous êtes en région parisienne, le 10 juin prochain, un samedi, un festival un peu particulier, Voix des Bois, au Hangar Y à Meudon, où vous serez, Jérôme Sûr, en conférence autour de l'évolution des paysages sonores des forêts. Et il y en aura pour toutes les oreilles. On se quitte, à bientôt Jérôme Sûr, vous revenez quand vous voulez.
Merci beaucoup Caroline, avec grand plaisir.
On aime vos sons et vos silences habités. On va se quitter sur le plus célèbre morceau de silence qui soit, The Sound of Silence, Simon & Garfunkel sur RFI. Petite dédicace spéciale à deux écouteuses formidables de l'autre côté de la vitre, elles s'appellent Chloé et Lola. People writing songs that voices never share. No one dare disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you, but my words like silent raindrops fell. Auto- tour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous réécouter en rediffusion ce soir à 23h, temps universel. Et bien sûr, vous abonner à notre podcast. C'est disponible sur toutes les plateformes et sur la nouvelle application RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain à des milliards d'années-lumière. Autour de la question, jusqu'où nous entraîneront les sursauts gamma et en particulier le plus lumineux de ces phénomènes cataclysmiques liés à l'effondrement d'une étoile dans un trou noir. Voilà qui devrait faire du bruit dans toutes les ondes possibles. Avec Thibaut Baduel à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses. Merci pour votre interactivité. Surtout, restez curieux. Gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.